aujourd'hui, pour l'émission Fréquence Livre, nous allons parler de l'ouvrage que vient de sortir Olivia Bell. Ça s'appelle Pierre Bayle, Les paradoxes politiques. Et c'est aux éditions Michalon, dans une collection qui s'appelle, d'un très beau nom, je trouve, Le bien commun. Alors, Olivia Bell, une question sur votre parcours avant d'entrer dans votre ouvrage. Vous êtes professeur de philosophie éthique actuellement à l'Institut protestant de théologie de Montpellier. Qu'est-ce que ça veut dire, la philosophie éthique? Pour moi, il y avait philosophie et éthique, mais pas les deux.
Oui, c'est vrai, j'ai un peu réuni, déjà en arrivant à la faculté de Paris, où j'ai enseigné pendant 30 ans avant de venir à Montpellier. J'avais déjà réuni, parce que le titre, c'est « Professeur de philosophie et de morale ».
Ah, donc vous avez enlevé morale et vous avez mis éthique, parce que c'est beaucoup mieux.
C'est pas mieux.
C'est moderne.
C'est l'époque, les temps ont changé. Maintenant, je dis souvent que je suis professeur de morale, j'aime bien le dire aussi. J'aime bien les deux mots. Les deux mots ont des sens un peu différents. Mmh. L'éthique est peut-être plus orientée vers le bon, vers le positif, et la morale, c'est peut-être plus strict et plus négatif.
Donc l'éthique, c'est le bien commun.
Le bien commun, voilà. L'éthique, c'est exactement.
C'est comme la collection.
C'est le bien commun. Et c'est d'ailleurs très ricœurien, parce que le philosophe Paul Ricoeur a insisté sur la primauté de l'éthique sur la morale. D'abord, on dit le bon, et d'abord, on dit le bien, et éventuellement le bien commun. Et après, il faut dire non, il y a des limites. Quand on veut le bien, en voulant le bien, on peut faire le mal. Et donc, il faut la morale pour mettre des entraves, des limites.
Des barrières.
Et donc, moi, j'ai réuni les deux mots simplement parce que, comme je n'étais pas théologien de formation, mais philosophe, je voulais pas faire une tromperie sur la marchandise et faire croire que j'étais un théologien de la morale. Ce qui existe, c'est une spécialité qui existe.
Ça existe.
Oui,
d'accord.
Bien sûr, il y a beaucoup de théologiens moralistes. Et donc, non, je voulais montrer que l'éthique, chez moi, était subordonnée, pas subordonnée, mais était une région de la philosophie et non pas une région de la théologie. Et ce qui me permettait d'être en débat avec la théologie d'une manière un peu plus franche. Ceci dit, on est tous, comme disait notre regretté collègue et mon ancien élève Raphaël Picon, nous sommes tous théologiens. Donc, quelque part, il ne faut pas se tourner vers ailleurs quand on parle de théologie. On est tous théologiens. Et on va le voir avec Pierre Bayle, c'est un philosophe, mais passionné de théologie et passionnant sur les questions de théologie aussi.
Et d'éthique.
Et d'éthique,
voilà. les deux réunis. Ouais. Alors il y a une question évidente qui est simple pour le départ. Pourquoi Pierre Bayle aujourd'hui? Et d'ailleurs, là aussi, peut-être on va régler le problème de la prononciation de son nom, puisque un Français qui n'est pas du Midi dit Belle.
Voilà.
A-Y, ça fait E. Et puis, vous dites Pierre Bayle, parce que c'est un homme du Midi.
Oui, c'est vrai que Bayle est lui-même un provincial, un ariégeois, exilé, mais probablement il a dû garder longtemps l'accent de son...
De son pays.
De son terroir, de son petit terroir. Ouais. Et donc, c'est une manière un tout petit peu de humour, pas humoristique, mais un petit clin d'œil pour dire, voilà, ce n'est pas complètement... voilà, c'est vrai que Bayle n'avait pas beaucoup de place, ni dans la cour de Louis XIV, où il était plutôt un proscrit, ni même, finalement, au siècle des Lumières, même si... On dit qu'il est le père des Lumières, que son dictionnaire historique et critique est à l'origine
de Lumières, ce que vous dites,
des
c'est
Lumières,
la matrice,
de l'encyclopédie,
vous dites,
oui, c'en est la matrice. Même s'il a beaucoup influencé Voltaire sur la question du mal et de la théodicée, etc. Bon, eh bien, il n'empêche que, en fait, quelque part, il n'est pas assez, c'est pas assez un homme de cour, c'est pas assez un homme de c'est pas assez un Parisien pour même pour le XVIIIe siècle. Donc voilà, il est resté ce marginal, et c'est à cause de ce côté marginal que moi-même, qui suis non pas marginal, mais je suis protestant quand même, ce qui est forcément dans la société française d'aujourd'hui encore...
On est marginaux.
...être un peu marginal. Il faut le sentir. Voilà, c'est une manière de le dire dans la manière même de prononcer le nom.
De prononcer le nom. Et alors, une question sur la place dans les dates de Pierre Bayle. Donc, il est né en 1647, il est mort en 1706. Et moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles il est peu remarqué aussi en littérature, on dit toujours Bayle et Fontenelle, ils sont toujours associés.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi.
Oui,
enfin, voilà, ils sont toujours ensemble. Et on les classe comme... Entre les deux, et pas ni dans l'un ni dans l'autre. Donc
oui,
c'est aussi une position paradoxale.
D'abord, c'est le Lagarde et Michard, hein,
oui,
Bayle et Fontenelle, enfin, pas seulement, mais massivement, on a appris la littérature française dans le Lagarde et Michard, dans des manuels qui rapprochent ces auteurs qu'on ne sait pas dans quel, sur quelle étagère mettre. C'est comme des livres qu'on ne sait pas sur, mettre sur quelle étagère. Alors, d'une certaine manière, Bayle est en même temps quelqu'un qui est un cartésien. Il vient après Descartes. Et donc, il fait partie des, d'une certaine manière des.
Il a joué. Descendant de Descartes.
Voilà, il a joué un très grand rôle dans le déploiement du cartésianisme. Et il a, on pourrait dire, appliqué les méthodes cartésiennes en histoire. On pourra y revenir là-dessus, mais c'est très important. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas une information précise, il vaut mieux ne rien dire. Mmh. C'est une règle de modestie, on va dire.
Absolument.
Qui est très cartésienne. Hein. Bon, il faut pas. On peut toujours affirmer ou nier, mais il faut se méfier de nos préjugés, de nos préventions, de nos passions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, quelles qu'elles soient. Et puis, il faut se méfier de notre ignorance. Voilà. Ça, c'est du cartésianisme. Mais d'un autre côté, il est, en effet, il a cet esprit beaucoup moins. Descartes est vraiment, si je peux dire, c'est quelqu'un qui a une pensée solaire. Il y a un seul point de vue qui a rien. Tandis que Bayle.
Il part dans tous les sens.
Bayle part dans tous les sens.
Voilà.
Il est
Vous aimez bien ça.
Ouais, j'adore ça. Il est profondément pluraliste. Il y a une pluralité de points de vue. Une pluralité, je dirais, irréductible des points de vue. Mmh. Et on est forcément dans le dialogue. On est forcément dans la.
On ne peut pas faire autrement.
On ne peut pas faire autrement. Mmh. Et ça c'est vraiment. Ce n'est pas la lumière solaire
de Descartes.
De Descartes. C'est les lumières. Ça, c'est son côté pluraliste. Il est vraiment lumière, quand même.
Et pourquoi a-t-il été un auteur aussi controversé jusqu'à notre époque encore, où d'ailleurs votre livre, ça, on va revenir sur le mot paradoxe, mais
oui.
C'est pas un auteur sur le duquel on a une lecture solaire définitive,
non, c'est ça, il y a ça, il y a des conflits d'interprétation de toutes sortes, il y en a sur son point de vue politique, on va en parler, il y en a sur sa foi, d'une certaine manière, ses amis protestants, soudain, se sont dit, mais est-ce que il critique tout? Est-ce qu'il a la foi, d'une certaine manière? Bon. Donc, il y a tout un débat sur, finalement, c'est quoi la religion de Bayle? C'est quoi la politique de Bayle? Bon, sur ces questions comme ça, là, il y a un vrai conflit d'interprétation qui n'est pas fini, d'une certaine manière, qui continue. C'est ça
qui
est drôle.
Et on verra plus tard les différents paradoxes avec, effectivement, des opinions qu'il essaie de mettre ensemble, bien qu'elles ne semblent pas aller ensemble.
Je vous en prie. Pour comprendre le fait qu'il a tout de suite été discuté, c'est que lui-même, il a introduit, par exemple, l'idée qu'un athée peut être vertueux. Il a fait l'éloge de Spinoza, il a fait l'éloge de Hobbes, de Milton, de gens tout à fait contradictoires les uns entre eux. Il faisait l'éloge de gens contradictoires entre eux, mais qui avaient tous comme caractéristique d'être mal vus, on va dire.
C'est ça, marginaux, comme
voilà,
vous disiez au début.
Et donc, il a pris sous son aile, il a pris la défense, il s'est fait l'avocat de points de vue marginaux. Voilà, c'est ça son fort.
C'est un de ses paradoxes aussi. Ouais. Alors, on va dire quelques mots de sa vie. Alors, c'est un homme, donc, comme vous disiez, protestant. Il a dû s'exiler à Rotterdam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, Olivier Abel? Pourquoi cet exil?
Alors, donc, c'est un fils de pasteur.
Oui.
Dans la France du 17e, qui est en fait une France en train d'être peu à peu, je dirais, dans laquelle une sorte de montée de la persécution contre les protestants, peu à peu. Donc ça commence par, je dirais, le total désarmement des protestants auxquels l'édit de Nantes avait laissé un certain nombre de places fortes. Et ces places fortes ne sont pas perçues comme supportables dans une nation qui est en train de s'unifier autour du pouvoir royal. Et donc il y a des guerres et Bayle, le père de Bayle est contemporain de ses émois, si je peux dire, dans la région du Toulousain, du pays de l'Ariège, de voilà. Et puis fils de pasteur, ils sont trois frères, tous les trois veulent être pasteurs, mais
c'est l'année qui commence les études.
Oui, et puis ils n'ont pas d'argent pour le deuxième, et il ronge son frein, il va chez son oncle. Pasteur aussi, il a une grande bibliothèque, lire énormément de livres. Et quand il arrive à l'académie depuis le Reims, où il va faire ses écoles, l'académie réformée, au bout de quelques mois, et c'est juste à côté de Toulouse, il découvre la bibliothèque des jésuites de Toulouse.
Voilà. Et se convertit.
Et il se convertit.
Au catholicisme.
C'est trop brillant, c'est trop magnifique, etc. Et il fait un an et demi, je crois, d'études chez les jésuites à Toulouse.
Avec une conversion quand même.
Oui, il se convertit complètement. Et puis, au bout d'un an, de deux ans, il se reconvertit.
Et au protestantisme.
À la foi de ses pères. Simplement parce qu'il a fait c'est pas forcément qu'il a fait le tour, mais il a compris qu'on pouvait pas faire le tour, justement. que c'était pas uniquement une question de raison, d'argumentation, de brillance dans la rhétorique, etc., que il y avait une question de fidélité, je dirais, de modestie. Et c'est plutôt, je dirais, pour reconnaître sa naissance. Je suis né comme ça. Finalement, j'ai pas de raison de changer parce que tout le monde naît quelque part. Et même si on se convertit, à quelque chose qui est aussi étroit. Et donc, voilà.
Voilà. Donc, on revient.
Et du coup, donc, il est absolument banni de France. Il est ça. retombé dans l'erreur et donc il doit quitter la France. Il part à Genève, il est précepteur à Genève, puis après, il part de manière clandestine à Rouen. Finalement, il va être nommé professeur de philosophie à l'académie de Sedan. Où il fait des cours de philosophie cartésien, comme ça, très, 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 très bon cours. Il a énormément de correspondances avec beaucoup de savants de son temps. Et au moment où l'académie de Sedan est fermée, avant la révocation encore, fait partie de la persécution des protestants, plutôt que de se convertir, on l'attend à Paris avec une très belle place pour lui. Non, il préfère partir, s'exiler.
Donc il reste protestant, il part aux Pays-Bas.
Et il part aux Pays-Bas, qui est vraiment
le refuge
naturel, si je puis dire.
Et puis des intellectuels aussi.
Beaucoup d'intellectuels, justement, Descartes, etc. Ils sont tous allés beaucoup dans tous ces pays nordiques protestants, mais je dirais profondément pluraliste. Le Pays-Bas est un pays dominé par l'église calviniste, mais profondément pluraliste.
Et alors, une question encore peut-être sur sa biographie. Il est indirectement responsable de la mort de son frère pasteur. Je crois que c'est quelque chose de très lourd, peut-être, dans une biographie.
C'est un point très lourd. Sa biographie est marquée par ça, parce que en fait, au début, il se fait connaître par un écrit extrêmement drôle qui s'appelle « Pensées diverses sur la comète », dans lequel il se moque des superstitions qui accompagnent le passage de la comète de Halley.
Voilà.
Et puis, tout le monde trouve ce livre extrêmement brillant, extrêmement drôle, etc. Et donc, c'est un livre qui, à la fois dans l'argumentation, il est profondément calviniste, parce que c'est de l'anti-superstition. Mais quelque part, ça déborde le calvinisme et ça entraîne l'adhésion aussi de tout le monde catholique, je dirais, érudit, un peu libertin, ou en tout cas libre.
Un peu libre penseur.
Oui, un peu libre, simplement.
Qui pense, quoi.
Qui pense. Voilà. La bonne société parisienne trouve ce livre extrêmement drôle et il n'y a pas de problème. Mais après, il fait une critique d'une histoire du calvinisme faite par un père jésuite. Et cette critique, elle est impitoyable. Et son livre, cette critique, va être brûlé en place de guerre,
voilà,
va être interdit.
Il y a encore des livres brûlés.
C'est ça. Et c'est ce livre, c'est en punition de ce livre que son frère
est arrêté.
Qui était déjà pasteur au Carla, là-bas, en Ariège, va être arrêté et emmené. Ça tombe quelques mois avant la révocation de l'édit de Nantes. Normalement, les pasteurs avaient le droit de quitter le territoire. C'était les seuls. Les autres étaient obligés de se convertir. Mais lui, il était pasteur, mais c'était trop tard, il était déjà en prison. Et donc, il est mort.
Des mauvais traitements
au château Trompette à Bordeaux.
À cause un peu de son frère, quoi.
Et tout à fait à cause de son frère. Et donc, son frère a porté pourquoi est-ce que son frère est mort? Et il est mort pour un éloge du pluralisme religieux. Et ça, ça va être la raison, je dirais, d'un deuxième malheur. Parce qu'il y a le malheur de la intime de la mort du frère et le malheur collectif de la révocation de l'édit de Nantes. Avec les
retours en arrière.
Les persécutions, les dragonnades, et puis les centaines, centaines de milliers d'exilés, de réfugiés qui partent clandestinement en abandonnant tout, etc. Mais il y a aussi ce qui se passe après, c'est qu'il y a la révolution glorieuse, la Révolution anglaise, et qu'au moment de la Révolution anglaise, les protestants, et notamment tous les protestants du refuge, comme un seul homme, viennent soutenir Guillaume d'Orange, qui veut interdire le catholicisme. Et alors donc, là, Biden, il trouve ça comme une contradiction. Ce que nous reprochons
en France,
nous ne pouvons pas le pratiquer là où nous sommes dominants. Nous devrions, nous, rester pluralistes et tolérants.
Ça, pas compris du tout.
Et alors ça, je dirais, c'est encore plus amer pour lui. C'est comme si son frère était mort pour rien, parce que c'était à cause de ces idées-là que son frère était mort. Voilà, donc là, il y a un drame, à mon avis, qui structure profondément toute la pensée de Biden.
Alors, nous revenons à notre entretien avec Olivia Bell autour de Pierre Bayle, donc les paradoxes politiques. Alors, sur les idées de Bayle. Alors, premièrement, j'ai envie de vous demander comment est venu à Bayle, enfin, vous l'avez déjà un petit peu expliqué, mais pas l'aboutissement de ce qu'il s'est mis à penser au sujet de la religion, de la politique. Comment est venue à Bayle l'idée de, qu'il faut dissocier dans un pays, dans un royaume de l'époque, la politique et la religion?
Ben, je pense que Bayle, est, d'abord, il est du comté de Foix. Le comté de Foix, c'est le royaume de Navarre.
Et donc, du roi de Navarre.
Du roi enfin, de Navarre.
L'origine du roi de Navarre.
Et donc, ce qui s'est passé, je pense que Bayle, c'est déjà un interprète extrêmement attentionné de ce qu'a fait Henri IV.
D'accord.
C'est-à-dire, quand même, l'idée que, pour établir la paix de religion, il faut accepter le fait que les religions, elles sont en guerre perpétuelle, mais qu'en attendant le résultat définitif du procès entre les religions, il faut bien établir une trêve suffisamment durable pour qu'on puisse l'appeler une paix, en quelque sorte. Hein, voilà, bon, une trêve. Et donc, on ne sort pas des guerres de religion par un accord sur le fond, sur la vérité.
De chacun de l'un ou de l'autre de,
oui, c'est ça, sur la vérité, c'est-à-dire sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est... Mais en attendant de savoir qu'est-ce qu'est la vérité, il faut bien qu'on trouve des règles qui sont des règles de cohabitation. Et ces règles sont des règles, je dirais, de morale universelle et des règles, je dirais, de politique. Et donc, voilà, on peut avoir une tolérance civile, même s'il y a des intolérances religieuses. À l'intérieur des églises, les églises peuvent très bien pratiquer l'excommunication,
etc. Entre elles, à l'intérieur de leurs membres, de façon interne.
Voilà, c'est ça, une église peut très bien être intolérante envers une hérésie et la chasser d'elle, mais elle ne peut pas la chasser du territoire.
Du territoire où elle est.
Il y a un pouvoir, les églises ont un pouvoir limité, et d'autre côté, les États ont un pouvoir limité par rapport aux églises également. C'est-à-dire, en fait, lorsque Louis XIV veut rentrer dans la conscience des récalcitrants, si je veux dire, de ceux qui continuent à protester en dépit des persécutions, il fait quelque chose qui dépasse complètement son autorité légitime et même son pouvoir, d'après Bayle. Et donc, il y a une limite mutuelle entre le politique et le religieux qui est fondamentale pour Bayle et qui lui vient d'Henri IV. C'est une interprétation d'Henri IV.
Oui, mais c'est très mal compris à l'époque, la nôtre.
Oui, c'est mal compris à l'époque, même peut-être à la nôtre, c'est difficile à comprendre.
C'est difficile à comprendre, vous pensez encore.
Je pense que Bayle est un auteur complexe, c'est paradoxal. Oui, c'est difficile à comprendre à l'époque, parce qu'à l'époque, en gros, la pensée dominante, c'est une pensée d'ailleurs qui a été établie par le traité de Westphalie, qui date des princes protestants, justement, c'était l'idée à chaque roi sa religion.
Sa religion.
Et donc à chaque royaume sa religion. Et ça, c'était une bonne solution pour l'Allemagne où il y avait plein de petits royaumes et on pouvait facilement
passer de l'un à l'autre.
Si on n'était pas bien dans tel petit royaume, on allait dans le duché à côté.
On changeait de religion.
Ou bien on changeait de religion pour rester dans le royaume.
C'est ça, au choix.
Voilà. Tandis que là, dans un pays grand comme la France et qui avec un pays avec une ambition, je dirais, d'union nationale très forte. On voit Richelieu, par exemple, mais même Henri IV, pour sortir de la guerre dans ce qu'elle avait de terrible, on ne peut plus dire un roi, un royaume, une religion. Sinon, c'est la guerre, justement. Et donc, c'est là qu'il faut inventer
autre chose.
Et c'est ça qui a mis tellement de temps à être inventé. C'est ça qui nous paraît bizarre aujourd'hui, en effet. C'est qu'il a été si difficile d'accepter cette dissociation. Et que cette dissociation soit aussi une dissociation dans les deux sens, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, que le politique, lui non plus, doit être neutre religieusement.
Et ça rejoint une des querelles, un des différends que vous soulignez beaucoup dans votre ouvrage. Donc, il y a à l'intérieur du protestantisme français à l'époque, ou européen, deux écoles, j'irais, politiques. Les arminiens qui veulent se dire oui au pouvoir des magistrats, des autorités, on peut fixer, convoquer les synodes, nommer les ministres, etc. Et puis les gomaristes, donc c'est... sorti de quelqu'un qui s'appelle Arminius, quelqu'un qui s'appelle Gomarus, et eux qui veulent faire la guerre donc à la France, et l'Église doit s'occuper de ses affaires internes. Alors qu'est-ce que c'est que ces deux, ce différent religieux à l'intérieur du protestantisme ?
Oui, alors, il y en a beaucoup de différents religieux.
Là, celui-là est quand même important par rapport au pouvoir politique.
Celui-là est important, même si la querelle de celui-là, c'était une querelle autour du thème de la prédestination. Donc apparemment, ça n'a rien à voir. Et là où d'ailleurs Bayle a un usage de la prédestination tout à fait paradoxal, justement, c'est que pour lui, l'idée de Calvin dans la prédestination, c'est l'idée que notre salut appartient à Dieu et que nous n'en savons rien. Et que donc, nous ne pouvons pas mettre la main, que le sujet lui-même ne sait pas pour lui-même.
Ce qui se passera.
Et ce qui se passera. Donc, et ce qui se passe, en fait. Et donc, s'il est sauvé ou pas. S'il va... Et donc, de toute façon, personne d'autre, ni le pasteur, ni le prêtre, ni le roi, personne ne peut mettre la main sur cette... Il y a en chacun de nous une réserve.
Une espèce de d'irréductibilité à l'intérieur.
Quelque chose d'irréductible, quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. Et cette chose-là qui n'appartient qu'à Dieu, il l'appelle la conscience. Et c'est la raison pour laquelle il dit « Les droits de la conscience sont les droits de Dieu ». C'est une phrase extraordinaire de Bayle. « Les droits de la conscience sont les droits même de Dieu », dit-il, dans son traité sur la tolérance. Donc, c'est comment Bayle va jouer de manière très paradoxale sur ce débat autour de la prédestination, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour la prédestination. Mais c'est vrai que derrière, il y a des débats politiques. Moi, je dirais plutôt que le grand débat politique qui a entre... C'est une interprétation de Calvin, qui serait une interprétation de Calvin comme homme d'ordre. Il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre et, en gros, il faut un souverain incontestable. Et ça, c'est la solution de Hobbes, du philosophe anglais Hobbes. Ceci dit, Calvin ne pensait pas comme Hobbes que le roi avait aussi le monopole de l'interprétation légitime des Écritures, des saintes Écritures. Parce que Hobbes, carrément, il va jusqu'à dire pour qui. Parce que le lieu du débat, le lieu du conflit,
c'est l'interprétation
du texte biblique. C'est que n'importe qui, avec un trois versets bibliques, peut mettre des bombes, si je peux dire. C'est tout à fait actuel par rapport à l'islam aujourd'hui. C'est exactement la même situation. C'est que, à partir de la réforme, n'importe qui, comme l'imprimerie a répandu la Bible partout, n'importe qui peut prendre une citation biblique et en faire se légitimer dans sa révolte ou dans
un seul verset ou une seule sourate.
Alors la solution de Hobbes, c'est de dire non, il y a un seul interprète légitime, c'est le roi, c'est le souverain. Alors ça, c'est pas tout à fait calviniste quand même, parce que pour Calvin, justement, l'interprétation, elle se fait en communauté, elle est collective, elle est éclairée par tout un travail exégétique, les langues, tout ça. Bon. D'autres solutions, c'est la solution de Milton, John Milton, qui dit non, chacun peut interpréter comme il veut, simplement, c'est la liberté, il n'y a pas de censure, la liberté est totale, mais cette liberté, c'est une liberté à condition de la liberté des autres. Donc je ne peux pas contraindre des autres, justement.
À penser comme moi.
Voilà, à penser comme moi. Donc forcément, il y a une multiplicité d'interprétations et on peut tout le temps changer. Et donc, du coup, le concept de politique chez Milton, c'est un concept, on va dire, de pacte libre entre des citoyens égaux, complètement libres, et qui peuvent tout le temps rompre le pacte et rompre l'alliance. Enfin, ça, c'est deux conceptions politiques profondément différentes. Et d'une certaine manière, ça, c'est curieux, c'est que Bayle va essayer de penser les deux en même temps. Voilà. L'ordre et la liberté. C'est difficile.
Voilà. Vous opposez deux œuvres, l'une qui s'appelle Le Commentaire philosophique, où il y a une apologie de la tolérance et puis une critique, je crois, de l'oppression religieuse catholique en France du XVIIe siècle.
Tout à fait.
Et puis La vie aux réfugiés, qui demande aux protestants réfugiés de ne pas être en sédition religieuse.
Exactement.
Alors, comment cet homme du XVIIe, début du XVIIIe, arrivait à concilier deux lignes totalement paradoxales,
tellement
opposées.
Que même longtemps, on a discuté de savoir si La vie aux réfugiés, c'était de Bayle
ou pas.
Parce qu'il a fait tout ça, il le fait sous des pseudonymes.
Pas
son dictionnaire qui est vraiment fait à son nom. Et là, pourquoi est-ce qu'il le fait à son nom? C'est parce que là, il est vraiment... le dictionnaire, il est pluraliste. Et donc, ça représente le mieux ce que Bayle est lui-même profondément. Mais les autres textes, qui sont souvent des textes
orientés, dans une idée,
eh bien, il les met... donc, il y a un éloge de la liberté qui est dans le commentaire philosophique sur la tolérance. Et donc, cet éloge de la liberté va très loin dans, justement, les droits de la conscience, qui sont les droits de Dieu. C'est les droits de la liberté de la conscience. Et d'autre côté, La vie aux réfugiés, c'est au contraire un texte presque hobbesien pour dire il y a un souverain, il faut le respecter, il ne faut pas lui désobéir, il faut arrêter tous ces libelles, tous ces pamphlets, cette liberté devient, je dirais, de la non pas de la liberté, mais du désordre, simplement.
Du désordre.
Absolument. Et de la calomnie, et de la véhémence excessive, etc. Et donc voilà, il tient ces deux lignes ensemble. Comme s'il fallait les corriger l'une par l'autre.
D'où le paradoxe. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit de la laïcité, donc de la laïcité de son époque, qu'on peut encore écouter et comprendre aujourd'hui ou appliquer aujourd'hui?
Je pense que son problème est un peu le problème qu'il pose en son temps et est encore le problème de la laïcité aujourd'hui. C'est-à-dire, d'une part, la laïcité s'appuie-t-elle sur une conception positive, heureuse du politique, c'est-à-dire du lien politique comme pacte, comme alliance, comme contrat social, pour reprendre le mot de Rousseau, ou bien est-ce que ça s'appuie sur une conception de protection contre le désordre? Est-ce que c'est une laïcité, je dirais, de répression, on va dire, de répression de la religion? Et ça, c'est déjà une interprétation de la religion dans ce cas-là de dangereux. C'est déjà une tension très forte et qu'on trouve chez Bayle. Plus généralement, peut-être, c'est le sentiment qu'on ne sait pas si la laïcité est elle-même un cadre, on va dire, un cadre politique neutre, ou si la laïcité est presque une religion d'État. D'une certaine manière, c'est comme si ce qu'il fallait à la France, c'est le gallicanisme, c'est une religion unique. Hein,
et, celle du roi.
Celle du roi. Et que, d'une certaine manière, alors que la laïcité a pu être justement introduire une dose de pluralité culturelle, des traditions dans la France.
Et religieuse.
Dans la France de 1905, c'est comme si aujourd'hui on revenait. La laïcité ne cesse d'osciller entre un pôle d'unité et un pôle de pluralité, on va dire. Et la laïcité essaye de penser ensemble l'unité du pluriel, mais aussi la pluralisation de l'unité. Et quand on met trop le curseur vers la pluralité, il n'y a plus la laïcité comme cadre commun, comme bien commun. Mais quand on met trop le curseur sur l'unité, on refait de la laïcité la religion qui remplace le catholicisme, c'est-à-dire en fait un sacré national qu'il veut. En gros, c'est notre identité. La laïcité devient une identité. Et ça, c'est quelque chose, je dirais, que Bayle aurait refusé très certainement.
Et alors, si je comprends bien, puisque nous arrivons à la fin de notre émission, vous avez pris cet auteur, par goût personnel, je pense qu'il vous ressemble par certains côtés, mais aussi parce que tout ce qu'il nous dit sur les religions dans un État, les différentes religions, l'attitude par rapport aux religions, l'attitude par rapport à la laïcité, c'est absolument actuel. Comment on fait pour qu'un auteur de 1696, une œuvre de 1696 soit actuelle aujourd'hui?
Oui, c'est très difficile, hein, parce que c'est vrai que d'abord, en plus, il n'a pas écrit des petits traités faciles à lire, etc. Il a écrit des énormes, ses livres sont tous énormes, c'est un auteur extrêmement prolixe. Et justement, la réaction du siècle des Lumières, c'est de faire des choses beaucoup plus brèves, très très brèves et beaucoup plus amusantes, comme Voltaire, par exemple. Donc ça le rend très inactuel. Mais sa pensée est en effet extrêmement, extrêmement actuelle. Et je pense qu'il a ouvert quelques-unes des grandes portes de la philosophie contemporaine. On en a décliné ici une seule, qui est celle de la philosophie politique, c'est-à-dire à l'époque politique et religieuse, le politico-théologique.
Mais il y en a plein d'autres.
Il y en a beaucoup
Donc
d'autres.
Vous allez écrire d'autres paradoxes, pas forcément politiques,
voilà,
de Pierre Bayle.
Exactement.
Alors il faut lire votre petit livre, Pierre Bayle, très accessible, Les paradoxes politiques, Olivier Abel, édition Michalon, collection Le Bien Commun. Merci beaucoup.